France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Vendredi dernier, près de Salon de Provence, l'agence régionale de santé, l'ARS, a fermé un EHPAD pour manquement grave et dangereux. Des inspections avaient relevé de graves défaillances alors plus de 3 ans après les révélations du journaliste Victor Castanet qui révélait des pratiques indignes dans nos maisons de retraite et dans un groupe en particulier, Orpea. Et alors que débutent aujourd'hui les assises nationales des EHPAD, qu'est-ce qui a réellement changé dans ce secteur? Les conditions de vie des plus âgés ont-elles évolué? Et plus largement, comment remettre de l'éthique dans ces établissements? Pour nous éclairer ce soir, un invité, Emmanuel Hirsch, bonsoir.
Bonsoir, Quentin l'a fait.
Vous êtes professeur émérite d'éthique médicale, vous avez fait paraître aux éditions du CERF en mai dernier Anatomie de la bienveillance, réinventer une éthique de l'hospitalité. Vous avez dirigé de nombreux comités d'éthique au sein de l'APHP et vous avez été nommé en 2023 directeur de l'éthique du groupe Orpea. On en parlera longuement pour comprendre pourquoi vous avez fait ce choix et ce que cela implique. Merci d'être ce soir dans Question du soir.
Le premier prétexte, c'était qu'on ne pouvait pas coller les patchs de morphine la nuit parce qu'il n'y avait qu'une seule infirmière et qu'il fallait être deux pour pouvoir coller un patch de morphine. Et ça, c'était révoltant pour nous. Et on a réalisé qu'il avait vraiment, vraiment souffert.
Une grand-mère qui appelait quand c'est qu'on vient me changer, quand c'est depuis ce matin, il est 11h, qui vient me changer. Et elles étaient débordées, elles disent, écoutez, on va venir quand on aura le temps. On leur demande de faire des économies de couches et comme des économies de personnel. C'est sûr qu'ils ont trop de travail.
Des propos recueillis par RTL, des témoignages de proches de résidents de l'EHPAD Clos Saint-Martin situé à Pélissanne. Et voilà ce que disait le communiqué conjoint signé par la région PACA et le département des Bouches-du-Rhône à propos de cet établissement. De graves défaillances au sein de l'EHPAD, locaux indignes et dangereux pour les résidents, gestion insatisfaisante des ressources humaines, maltraitance institutionnelle. Emmanuel Hirsch, est-ce que depuis 3 ans, on réalise crise après crise, établissement après établissement, que trop peu de choses, bien trop peu de choses ont changé?
Quand on a fait, si vous m'aviez invité il y a 3 ans, j'aurais pas pu parler d'une manière légitime de ce qu'est la réalité des EHPAD, en tous les cas, dans le groupe au sein duquel j'assume la responsabilité de l'éthique, qui était MEIS. Quand j'écoute ces témoignages,
Ex-Orpea.
Vous comprenez Ex-Orpea, puisqu'il y a une évolution effectivement dans le groupe, on pourra en parler. Quand j'écoute ces témoignages, vous comprenez pourquoi on peut être motivé à faire de l'éthique avec des professionnels qui cherchent également à être au rendez-vous de l'attente à la fois des personnes qu'on accueille et des familles. Donc on est dans un moment tout à fait intéressant. Ce qui a été dénoncé par Victor Castanet intervenait après la pandémie, rappelez-vous, où certains EHPAD n'avaient pas démérité, où certains professionnels avaient été sur le front. Et il y a eu, avec la publication de cet ouvrage, de cette enquête, une rupture profonde et une perte de confiance dans des établissements qui déjà suscitaient une certaine forme d'inquiétude et d'érection, puisque on a toujours dans notre pensée, notamment en France, la représentation des lieux de fin de vie, des mouroirs. Mmh. Bref, on sait que autour de l'EHPAD est attachée une image très péjorative. Ça renvoie à la dépendance, aux vulnérabilités. Et je précise que nombre de personnes, la majorité des personnes qui viennent dans les EHPAD sont des personnes qui ne peuvent plus rester dans leur domicile. C'est-à-dire parmi nous, là où ils sont bien, là où ils sont dans un environnement qui est l'environnement le plus naturel. Et donc le défi, c'est que dans nos établissements, vous avez en France 7328 EHPAD publics, privés, associatifs. On accueille des personnes qui sont souvent dans des situations de vulnérabilité existentielle, de solitude, de maladie, et souvent atteintes de maladies neurocognitives. Vous savez que c'est à peu près entre 85 et 88 ans qu'on arrive dans les EHPAD, et 40% des personnes, en minima, sont atteintes de maladies qui affectent leur capacité décisionnelle. Alors je termine pour répondre à votre question. J'ai l'impression que les choses ont évolué. Pas uniquement dans les EHPAD privés, mais d'une manière générale. D'abord, on a pris conscience de ce qu'était la liberté fondamentale de la personne d'un grand âge, y compris au niveau de la dépendance. Mais si on a évolué au niveau des EHPAD, il faut aussi que la société évolue dans le regard qu'elle porte sur le grand âge, sur le vieillissement. Et je termine sur un point qui est très intéressant. Regardez dans tous les grands groupes, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics et qu'ils soient aussi associatifs, il y a une réflexion sur comment réinventer non pas l'EHPAD, mais des lieux de vie, à la hauteur d'exigences qui vont être de plus en plus fortes en termes de dignité, en termes de respect de l'autonomie de la personne. Ça, c'est au rendez-vous de notre quotidien. Donc je suis très fier aujourd'hui d'avoir assumé ce défi, y compris lorsque, quand je suis rentré chez Orpea, qui est maintenant Emeis, la plupart des personnes qui faisaient de l'éthique ont dit que j'étais déraisonnable et que j'insultais l'éthique en rentrant dans un groupe de cette nature, alors que j'avais le sentiment que c'était précisément là qu'il fallait défendre nos valeurs éthiques.
Alors justement, j'y viens, puisque vous évoquez vous-même le sujet, pourquoi avoir dans le fond accepté cette mission que ce groupe privé vous proposait? Pour résumer, quand on lit, j'allais dire, ce statut, directeur de l'éthique du groupe Orpea, on y voit un oxymore, est-ce qu'on se trompe?
D'abord, le directeur, c'est plutôt la direction d'éthique qui est partagée par l'ensemble des équipes des collaborateurs. Et ma rencontre avec Orpea, ça a été la rencontre avec Laurent Guillot, qui était le directeur général, qui venait d'une grande entreprise du CAC 40 et qui a accepté aussi le défi. Vous imaginez qu'en 2022, c'était simple de se retrouver patron d'un grand groupe comme Orpea, qui signifiait la maltraitance, qui signifiait le scandale, qui était caricaturé, et on n'osait même pas dire qu'on faisait partie d'Orpea. Vous voyez ce que je veux dire?
Je pense pas du tout que ce soit simple, mais je pense que chacun prend ses responsabilités et assume les choix, bien sûr.
Et je pense que lorsqu'on voit ce qu'est Orpea, donc avant de rentrer officiellement comme directeur d'éthique, je suis allé dans les établissements, et j'ai vu la rupture qu'il y avait entre le livre, en tous les cas, sans contester les arguments de Victor Castanet qui concerne la gestion financière, qui concerne un certain nombre de décisions de gouvernance.
J'ai et le mode de vie des personnes qui peuplent les EHPAD, le quotidien, leur maltraitance également.
Dans les établissements, dans les 228 établissements du groupe, dans ceux que j'ai visités, j'ai vu des personnes qui étaient meurtries, des professionnels qui étaient meurtris par ce qui se passait. J'ai rencontré des familles qui n'avaient pas cette vision aussi péjorative et qui étaient même inquiètes par la remise en question de la réputation du groupe, comment mettre l'être cher, comment le mettre dans un contexte qui est aussi contesté. Donc, dans la vision que j'ai eue, dans l'analyse que j'ai faite, je me suis dit il y a beaucoup de bonnes raisons d'être auprès de professionnels qui défendent plus que d'autres les valeurs de l'éthique et qui ont à le faire dans un contexte où on conteste ce qu'ils sont. Donc voilà, pour vous expliquer la démarche, pour moi c'était un défi, mais quand je suis arrivé à la PHP, quand je suis arrivé à la responsabilité de l'éthique au niveau de mon université Paris-Saclay, il y avait toujours des défis. C'est-à-dire que pour certains, l'éthique, c'est cosmétique, c'était apporter à un groupe privé une espèce de notoriété ou de réputation, alors que c'était pas ça. Moi, j'ai cherché à valoriser une réalité, et je peux vous dire aujourd'hui, quand vous voulez, venez avec moi, Quentin, visiter nos EHPAD, on dit pas que nous sommes parfaits. Nous sommes dans un chemin qui vise l'exemplarité.
Est-ce que vous vous êtes vous-même, Emmanuel Hirsch, fixé, j'allais dire, une ligne rouge, une éthique personnelle, si jamais vous observiez que les transformations nécessaires du groupe Orpea n'étaient pas établies? Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, je mènerai ma mission jusqu'à un tel point, mais il y aura une limite à celle-ci?
Je vais vous dire, je suis rentré à la PHP, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, en 1991, j'ai quitté en 2022. Donc c'est pour dire que je suis plutôt dans la continuité. Si à un moment dans ma vie, au sein des milices anciennes Orpea, j'avais eu le moindre doute, je ne serais pas devant votre micro pour parler en tant que directeur de l'éthique. En plus, c'est un groupe qui est international, c'est-à-dire il y a la France, mais il faut ne pas oublier qu'il y a 20 autres pays qui sont également dans le groupe. Donc aujourd'hui, je vous dis en sincérité, on est en train d'enregistrer, donc peut-être que demain, vous sortirez l'enregistrement en disant « mais Emmanuel était un utopique ou il était déraisonnable, il ne connaissait pas la réalité ». Ma plus grande fierté, c'est d'avoir travaillé à France Culture et d'être aujourd'hui à Emeis. Ma plus grande fierté parce que j'ai le sentiment d'agir politiquement, c'est-à-dire d'intervenir dans l'espace public pour réformer, pour faire avancer un certain nombre de causes. On est une société dont on parle du vieillissement comme une charge en termes économiques, alors que c'est une valeur. On a au quotidien, que ce soit dans nos cliniques psychiatriques, que ce soit dans nos EHPAD, des personnes qui sont marginalisées socialement. Quand vous regardez les petits frères des pauvres qui vous disent qu'à peu près 520 000 personnes âgées solitaires sont en mort sociale et que nous, on fait tout aujourd'hui pour faire des lieux d'accueil, des lieux de vie, des espaces de créativité, en interaction avec la cité, des espaces également ouverts sur l'environnement. Donc, si je vois aujourd'hui la démarche politique du groupe dans lequel aujourd'hui j'interviens, je dirais que j'ai plutôt de la fierté d'accompagner un mouvement. Et je viendrai vous voir, Quentin, où je vous enverrai un message pour vous dire le jour où il y aura quelque chose qui me choquera.
Je voudrais vous faire entendre, c'est encore sur RTL, la voix de Laurent Garcia qui travaille également chez Orpea et qui décrit une situation qui ne change pas, c'était en 2025.
Je vais sur les EHPAD et je pense que rien n'a changé, sauf qu'en plus maintenant les EHPAD n'ont plus d'argent. Chez Orpea, il y avait une soignante pour 33 résidents. Ouais. Le problème pour parler des groupes privés, c'est que des milliards circulent dans les groupes privés et que l'argent, on pourrait le trouver à un moment. En fait, on marche sur la tête. Ouais. Il faut à un moment une autorité administrative indépendante pour le contrôle de ces EHPAD. Et il faut que le gouvernement prenne des décisions, de mettre de l'argent sur la table. Et ça, ils le feront pas. Pas plus tard que cette semaine, j'ai reçu d'un chef cuisinier d'un grand groupe privé d'EHPAD une recette pour démixer. Et je vous la donne pour 12 personnes. 2 steaks hachés, 32 biscottes et du bouillon de légumes.
Qu'est-ce que le directeur de l'éthique peut faire face à cela, Emmanuel Hirsch? Comment il peut réagir? Quelles règles il peut décrire et édicter?
D'abord, Laurent Gracia a fait un travail important puisque ça a été un lanceur d'alerte. Il était sur le terrain. Je pense que c'est un grand professionnel. Et quand on écoute ses interventions, c'est des inventions pétrie d'humanité, de connaissance, de la réalité. Donc je ne mets pas en cause son propos. Quand je l'ai écouté la dernière fois, il parlait aussi des EHPAD publics ou des EHPAD associatifs qui sont en grande difficulté. Le secteur privé, c'est 32% des EHPAD. Le secteur public, c'est 44%. Et il y a 22% d'associatifs qui sont en situation de vulnérabilité économique. Et juste, si vous poussez l'enquête aujourd'hui, pour un groupe comme Orpea et MEIS, hein, puisque vous dites Orpea, donc aujourd'hui MEIS, pour un groupe comme le nôtre, s'engager auprès de personnes en situation de grand âge, c'est pas du tout en termes de rentabilité. Vous savez que le groupe MEIS, 51,2% de notre capital, c'est la Caisse des dépôts et c'est la mutualité, qui nous a fixé aussi l'objectif d'être une entreprise sociale. C'est-à-dire, nous avons un projet d'entreprise sociale.
Et c'est vrai. Mais dans ce que décrit Laurent Gracia tout de même, hein, j'allais dire, dans les menus qui sont proposés, les menus avilissants qui sont proposés aux personnes résidentes en EHPAD, comment, encore une fois, là-dedans, le directeur de l'éthique peut réagir? Quels sont les moyens de réaction face à cela?
Vous savez que, d'abord, il n'y a pas que le directeur de l'éthique qui est responsable de ce qui se passe.
C'est lui qui est face à moi.
Oui, il est face à vous et vous dira que nous sommes, je crois, le seul groupe qui a un directeur de l'hospitalité. Et l'hospitalité, c'est à l'accueil. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, il nous présentait justement ce qu'on a fait pour la partie restauration, qui n'est pas uniquement alimentaire, dans le sens qu'il faut éviter que les personnes décompensent et se dénutrient. C'est aussi des moments plaisir, c'est des moments relationnels. La quasi-totalité de nos cuisiniers ont été formés aujourd'hui dans les grandes écoles de cuisine. Et si vous voulez, encore une fois, moi je suis pour le concret. Que les gens qui nous écoutent, les auditrices...
Deux steaks hachés pour 12, c'est assez concret.
Attendez, allez voir, on parle de généralité. Allez voir aujourd'hui, faisons des investigations dans nos établissements. Ça fait partie des priorités de notre direction générale. Pas uniquement d'ailleurs la cuisine en tant que telle, c'est le plaisir de vivre aussi. C'est les activités, c'est l'ouverture sur la cité, c'est la culture. Donc je suis pas en train de vous dire que tout fonctionne. Et ça aurait été pas, pour moi, véritablement un défi de rentrer dans un groupe s'il n'y avait pas quelque chose à créer. Aujourd'hui, il y a une dynamique de créativité qui associe les résidents. Vous savez que de plus en plus, les personnes qu'on accueille, selon la méthode de Montessori, sont partie prenante de la vie des établissements. Ça, les familles, juste un point qui n'est pas que marginal, vous avez en France à peu près 10 millions d'aidants. Donc de personnes qui aident à domicile et qui, à un moment donné, un conjoint par exemple, se trouve vraiment en rupture quand il doit franchir le seuil de dire « je ne peux pas accompagner chez moi et je vais vers l'EHPAD ». On a accompagné aussi les conjoints, on a accompagné aussi la société dans son appropriation des défis qui sont les nôtres. Et un point, vous dites directeur de l'éthique. Dans mon approche de l'éthique, c'est pas le bien et le mal, c'est d'abord le préférable. Quand vous êtes confronté à une personne atteinte d'une maladie neuroévolutive, qui n'arrive plus à maîtriser ses comportements, qui hurle toute la journée, qui est en errance, quelle est la réponse la plus adaptée? C'est en termes de sollicitude, en termes d'attention. Et dans les priorités de notre groupe, en termes de formation, on vient de créer un centre de formation justement pour les aides-soignants, pour tous les personnels qui sont chez nous. Il y a aussi à apprendre de nouvelles approches de la personne, y compris qui n'est pas communicante. Ce que je veux dire, c'est que les défis sont immenses. Donc on n'est pas en train de dire qu'on est dans la perfection. On sait d'où on va, d'où on vient et où on cherche à aller. Et il y a une mobilisation, et c'est une mobilisation qui doit être accompagnée aussi par des choix de société. Parce que ce que dit Laurent Gracia aussi, c'est le manque de financement aujourd'hui pour être à la hauteur des attentes.
J'allais y venir justement, les défis sont immenses, hein, vous l'avez dit, ils sont également croissants, entre 2020 et 2030, la population des 75-84 ans passera de 4,1 millions à 6,1 1 million, soit une hausse de 47% en 10 ans. Selon l'INSEE, c'est absolument colossal. Lorsque l'on sait que les moyens dévolus aujourd'hui au grand âge ne sont pas suffisants, comment, j'allais dire, relever le défi du grand âge en 2030 et dans les années qui suivent ?
Alors sur les personnes, et on n'est pas pour les généralités, qui ont plus de 75 ans, celles qu'on accueille dans nos établissements, 40% d'entre elles ont des lourdes dépendances. Elles ne peuvent plus vivre autonomes. Et c'est un point à prendre en considération. Donc vous avez la loi d'avril 2024, bâtir une société du bien vieillir. Je pense que c'est pas uniquement des questions d'EHPAD, c'est des questions de société. Et vous voyez, la démarche aujourd'hui de tous les EHPAD, c'est d'abord de maintenir le plus longtemps possible la personne dans son environnement habituel. En termes de prévention, il y a tout un ensemble de programmes internationaux sur la prévention. C'est-à-dire l'important, c'est de maintenir la personne à travers ses réseaux, à travers son relationnel, à travers sa vie de tous les jours, pour éviter la rupture avec son quotidien.
Mais pour cela, Emmanuel Hirsch, il faut bien plus de moyens, c'est-à-dire qu'il faut bien plus d'encadrants, il faut bien plus de temps à consacrer à ces personnes.
Vous l'avez très bien dit. Quand la CNSA vous dit qu'on investit à peu près aux alentours de 42 milliards pour l'autonomie, en tous les cas pour les personnes qui sont en difficulté, qu'elles soient en situation de handicap ou de dépendance dans le grand âge, c'est quand même un signal fort de la solidarité. Mais aujourd'hui, la demande est de plus en plus complexe. Ça demande des professionnels, juste un point, puisqu'on a évoqué Laurent Garcia. Aujourd'hui, notre groupe a 0,84% de TP, c'est-à-dire de personnes auprès de la personne.
L'équivalent temps plein, c'est-à-dire
de TP.
De travail à temps plein.
Voilà, plus 30% par rapport à l'ensemble des autres groupes. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas uniquement dans le monde des idées, on est dans le monde du réel. En fin de compte, l'idéal, il est difficile à atteindre, ça serait une personne pour une personne. Alors quand vous dites comment viser, j'allais dire, à une qualité d'accueil, à une qualité de soins, dans un contexte aussi, et vous l'avez évoqué dans votre introduction, où on est de plus en plus encadré. On a de plus en plus de justifications à porter, on a de plus en plus de protocoles, de procédures, on est dans des lieux de plus en plus médicalisés. Quand vous voyez donc de quelle manière il y a des contraintes, il faut arriver à hiérarchiser. Et pour moi, d'un point de vue éthique, l'élément le plus essentiel, c'est comment reconnaître la personne dans son histoire, dans son existence, comment respecter les libertés fondamentales de personnes qui ont aussi besoin d'être protégées. Et toute la culture éthique qu'on développe dans un groupe comme le nôtre, on a des ambassades en région, c'est une appropriation par chacun de ses responsabilités, mais pas uniquement professionnelles, mais sociales, politiques. J'observe que certains des professionnels dans nos groupes n'osent même pas dire à leur famille qu'ils travaillent dans des EHPAD tellement il y a un rejet, une déréliction, une marginalisation de ce qu'on fait. Donc redonnons aussi politiquement, et c'est à chacun des membres de la cité de le faire, une dignité et une valeur à ce que l'on fait.
Cette citation, Emmanuel Hirsch, dans votre ouvrage, l'interne d'un hôpital parisien a su, d'une formule, me donner à comprendre que la perte de dignité, c'est avoir honte de ce qu'on est devenu. C'est se trouver engagé sans issue dans des situations humiliantes. Mon rapport à la dignité de l'autre consiste à partager cette honte, à la prendre en quelque sorte sur moi. Fin de citation. Vous avez fait vôtre, justement, cette définition de la dignité?
Vous avez noté dans cet ouvrage, je parle du travail élaboré dans notre groupe sur la bienveillance, sur la bientraitance, des fondamentaux de l'éthique, sur la sollicitude, la reconnaissance de la personne. Mais on arrive à voir au domicile des situations d'indignité qui sont encore plus caractéristiques que ce qu'il y a dans les EHPAD. Le domicile, c'est le huis clos, on ne voit pas. Mais c'est aussi des lieux quelquefois de maltraitance. Et vous allez, ça vous paraîtra paradoxal, des personnes qui retrouvent une dignité parce que précisément à un moment donné, ils sont accueillis. Et notre défi pour nous, c'est l'hospitalité. Est-ce qu'on est capable d'hospitalité? Et l'hospitalité, c'est dès le premier contact. C'est-à-dire dire à des personnes qui ont été déroutées, qui ont été marginalisées, qui ne savent plus où elles se situent par leur existence, qu'elles ont quelque chose encore à vivre en commun avec nous. Et pour moi, le défi au niveau d'éthique, quelles valeurs communes on partage avec la cité quand on est dans un établissement qui devrait être aussi une fierté de la cité. Aujourd'hui, je vois des EHPAD au cœur de la ville, à côté de l'école, des EHPAD qui accueillent d'un point de vue intergénérationnel, des EHPAD qui ont aussi des restaurants, qui accueillent des personnes qui ne sont pas uniquement les personnes d'EHPAD. C'est cette ouverture. Et c'était des lieux d'enfermement. Et vous voyez, dans la stigmatisation des EHPAD d'hier, c'était des lieux d'enfermement qui était destiné finalement non pas à accompagner, mais être présent à des personnes qui allaient mourir. Là, il y a maintenant des projets.
Cela veut dire, Emmanuel Hirsch, que l'on a tort de mettre sur un pédestal le modèle nordique dans lequel, dit-on, le maintien à domicile est poussé au plus loin et l'intégration à un EHPAD, l'hospitalité dans un EHPAD, elle, est, j'allais dire, repoussée au maximum.
Il y a des éléments culturels. Je pense que le modèle d'EHPAD, d'ailleurs le mot EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, est un mot qu'on doit proscrire parce que c'est des lieux de vie et des espaces où les personnes ont une aventure à mener. Ça, c'est toutes les réflexions qu'on peut mener. Maintenant, le domicile, et c'est aussi dans la loi pour bâtir une société du bien vieillir, c'est un domicile qui doit être aussi un domicile en société. C'est-à-dire que ça ne doit pas uniquement être enfermé au domicile, qui doit être équipé. Et il y a tout un ensemble de programmes également. Vous voyez, on a nos professionnels qui interviennent de plus en plus au domicile pour apporter, aussi dans nos groupes, on a des services à domicile. Donc on voit quelle est la réalité du domicile. Nous ne nous racontons pas d'histoire. Le domicile, pour une personne très âgée, c'est souvent la solitude. C'est souvent l'enfermement, c'est souvent l'angoisse. Et donc, comment redonner de la vie s'il n'y a pas une mobilisation de la société? Je parlais des petits frères des pauvres, mais dans les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui se préoccupent véritablement dans son immeuble, dans sa région, de cette sollicitude et de cette solidarité, le regard qu'on porte sur la personne lui redonner vie, alors qu'elle a été avec le sentiment qu'elle était exclue parce que le grand âge, la vieillesse, c'est une espèce de forme de dépérissement et de démonétisation. Moi, je pense qu'on a transformé le regard. Et dans notre projet d'entreprise aujourd'hui, une entreprise dans la cité, une entreprise responsable, on a participé à cette évolution.
Le témoignage d'une aide-soignante, elle témoignait justement dans le cadre du grand reportage de France Culture, c'était en août 2019.
Nous avons un métier où nous devons être maîtres de nous-mêmes. On nous tape, on ne rend pas le coup. On nous griffe, on nous insulte, on ne rend pas les insultes. Mais c'est pas de leur faute, en fait. C'est leur démence qui fait ça. Je n'excuse pas le comportement maltraitant qu'ont pu avoir certains soignants envers ces personnes. Aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nous n'étions pas assez nombreux pour pouvoir passer la main, en fait. Sauf que quand nous sommes en sous-effectif, voire des fois en sous-sous-effectif, parce qu'il y a de l'absentéisme, on n'a plus la possibilité de passer la main. Et là, ça devient très compliqué pour le soignant. On est à la limite, on est au burn-out. Hein. Et la maltraitance fait partie du burn-out. On nous demande d'en faire toujours plus, avec déjà moins de personnel, moins de moyens. C'est là où on est dans la maltraitance institutionnelle.
Il y a bien cette question de la maltraitance institutionnelle, Emmanuel Hirsch, qui est le fruit souvent d'un manque de moyens. Certains disent également d'une recherche de la rentabilité s'agissant des établissements privés. Quel lien vous faites justement entre les deux, entre cette recherche de rentabilité et les maltraitances dites institutionnelles aujourd'hui?
Alors il y a maltraitance institutionnelle, vous l'avez dit dans votre chapeau, mais il y a aussi maltraitance sociale vis-à-vis des institutions
et maltraitance ordinaire.
Voilà, maltraitance du quotidien. Vous avez vu que dans l'ouvrage que j'ai consacré à ces questions, on analyse les différentes composantes d'une maltraitance. D'abord, hommage à des professionnels, comme cette soignante qui vient de s'exprimer, et qui dit ce qu'est le quotidien de son engagement, dans des situations qu'on méconnaît, de leur complexité. Donc, est-ce que dans les arbitrages politiques aujourd'hui, on considère que l'EHPAD, j'oublie le mot EHPAD, en tous les cas que ces lieux d'accueil et d'hospitalité sont dotés des moyens, je ne parle pas uniquement des compétences, mais déjà des moyens qui leur permettent d'avoir les personnes les plus compétentes. Vous dites, je suis directeur de l'éthique du groupe Emeis, ancienne Orpea, pour vous faire plaisir. Quand on voit la politique du groupe aujourd'hui, on est entreprise à mission, l'attractivité de ces métiers. C'est redonner du sens à ces métiers. Ça demande aussi à la société de donner du sens aux métiers qui sont les métiers du soin. Vous avez la crise dans l'hôpital, d'une manière générique, et puis vous avez la crise dans les établissements du médico, du sanitaire et du médico-social. Elle impacte les personnes les plus vulnérables et leurs proches. Donc je pense qu'en termes de défis, en tous les cas, vous me parlez que je suis directeur aujourd'hui de l'EMEIS, de l'éthique de l'EMEIS. J'anime au sein d'un groupe ce qu'est la réflexion et l'engagement éthique. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la passion des gens qui sont sur le front. Et il faut pas maintenant qu'ils désespèrent. On entendait le burn-out, je veux dire, ce que j'appelle d'une certaine forme une maltraitance éthique des professionnels. Nous, on fait tout pour prévenir cette réalité, mais il nous faut des moyens. Alors, je vous ai dit un peu maladroitement qu'on a tout fait pour avoir un maximum de personnes auprès des personnes les plus vulnérables, mais considérer aujourd'hui que l'engagement par rapport au travail, y compris des professionnels dans le soin, n'est plus le même. Donc on fait appel de plus en plus à des professionnels qui viennent d'une manière intérimaire, qui ne partagent pas toujours nos valeurs. On a aussi du turnover dans nos établissements, parce qu'effectivement il y a une lourdeur, non pas uniquement de la fonction, mais de cette confrontation existentielle au quotidien, avec des souffrances pour lesquelles on n'a pas toujours les bonnes réponses. Donc il y a un défi. Et je pense que quand vous êtes dans le domaine de l'éthique, vous n'êtes pas en train de surplomber les problèmes. Vous devez vous engager, voir les difficultés. Et je vous ai bien dit, j'aimerais que vous me réinvitiez une fois, encore dans quelques années, puisqu'on est entreprise à mission, ou que vous invitez un membre de la direction générale, pour nous dire qu'est-ce qu'on a véritablement aujourd'hui fait, quelles sont nos avancées. Soyez convaincus qu'on est supervisé par les tutelles, mais aussi par différentes instances. Et un dernier point que vous avez
on
dit...
On mènera cette enquête, parce que malheureusement, oui. on n'a plus le temps d'évoquer, on a déjà dépassé la limite. Mais en tout cas, je vous remercie de cette discussion, de cet échange, Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique médicale, directeur de l'éthique du groupe Orpea. Et je remercie également celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rodi Eken, Roxane Poulain, Bertie Bourdon à la réalisation, c'était Margot Page. Et à la technique ce soir, Jean-Guy Limège.